Ce soir, sur Campus Grenoble.
90.8.
Nous ferons ce qui est interdit.
Nous irons ensemble à la buvette.
C'est l'apéro.
Phonie.
L'exception radiophonique.
L'apérophonie.
De la culture.
Et de la musique.
Au shaker et à la cuillère.
Campus Grenoble 90.8.
Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes bien sur Radio Campus Grenoble 90.8. Pour l'apérophonie de ce soir, nous retrouvons les finalistes du concours Eloquentia ainsi que des bénévoles de l'association qui l'organise. Donc le concours Eloquentia de Grenoble, organisé par l'association du même nom. Le concours Eloquentia, je le rappelle, c'est un concours d'éloquence pour des personnes entre 18 et 30 ans dans lequel plusieurs personnes s'affrontent sur un sujet. Un candidat doit défendre la positive et l'autre la négative. La négative, pardon. Depuis le 11 mars à Grenoble, plusieurs personnes parlent, déclament, argumentent, persuadent sous plein de formes différentes devant un jury. La finale du concours cette année a lieu le 6 mai, donc après-demain, de 18 à 20h, à l'Amphi 1 de la Galerie des Amphis à Saint-Martin-d'Hères. Il n'est pas trop tard pour prendre vos places, c'est gratuit et le lien est dans la bio Instagram à eloquentia.grenoble. Nous allons donc discuter du concours, mais d'abord de l'association Eloquentia. Et pour ça, je suis avec les trois bénévoles de l'association Eloquentia. D'abord Sarah Muti, secrétaire de l'association. Bonjour.
Bonjour.
Buntu Camara, du pôle partenariat.
Hello.
Et enfin Léonie Morestin, présidente de l'association.
Salut.
Donc cette association, elle ne fait pas que des concours d'éloquence, elle organise aussi des cafés-débats, des masterclass et des ateliers pour se former à la prise en parole et à l'éloquence, afin d'initier donc les jeunes isérois à l'art de la prise de parole. Depuis combien de temps cette association existe-t-elle? Et peut-être quelle est son origine? Quelle a été l'impulsion en fait pour créer une telle association Peut-être Léonie, qui est présidente.
Eh ben, c'est une association qui existe sur Grenoble depuis 10 ans, donc c'est notre 10e saison cette année. Mais notre association, elle est beaucoup plus large que ça, puisque c'est une association internationale qui existe depuis 2012, inventée par Stéphane de Freitas en Seine-Saint-Denis. Et donc aujourd'hui, ça fait 10 ans à Grenoble. Mais c'est une association qui s'étend sur toute la francophonie. Donc on a des associations, une quarantaine d'associations dans le monde, en France, mais aussi Madagascar, en Algérie, voilà, etc. Dans toute la francophonie.
Stéphane de Freitas, qui, je le rappelle, est un des réalisateurs, si ce n'est le réalisateur du film très connu à voix haute.
C'est le réalisateur du film à voix haute, exactement. Et donc le film à voix haute qui présente la formation Eloquentia, qui se trouve aussi à Grenoble.
Et donc l'association, elle est composée seulement d'étudiants et d'étudiantes, ou est-ce qu'il y a un public plus large qui...
Alors l'association, nous actuellement à Grenoble, on n'est que des étudiants, mais c'est pas ça dans toutes les associations. On touche un public de 18 à 30 ans, en tout cas pour le concours, mais sinon, vraiment tout le monde peut être bénévole dans l'association et tout le monde peut participer à nos ateliers masterclass qu'on propose. À part, mine de rien, le concours qui est limité aux 18-30 ans, mais sinon, encore 18-30 ans, c'est pas les étudiants. Donc, voilà.
Et donc, si je comprends bien, les masterclass, les ateliers et les cafés-débats sont ouverts à vraiment tout un public au-delà de 18 et 30
ans. Exactement.
Tous
ceux qui veulent en savoir plus sur la prise de parole en public et la prise de parole éducative, c'est gratuit, tout est gratuit.
Et donc, vous venez de le dire, c'est pas seulement un concours que vous organisez, c'est plein d'autres choses, dont des masterclass. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce terme de masterclass, l'une d'entre vous?
Je vous en prie.
Du coup, on fait plusieurs ateliers et masterclass en début d'année en général. Les ateliers, en fait, c'est un peu le même format, sauf que c'est animé par des bénévoles, donc nous en général. Et tout ce qui va être masterclass, c'est vraiment des intervenants professionnels dans la prise de parole en public. Donc on va avoir des metteurs en scène, on va avoir des personnes, des professeurs dans la rhétorique classique. Enfin, on essaye d'inviter des personnes qui ont des profils variés afin que les personnes qui assistent à nos masterclass, et le plus possible d'expérience et de choses différentes à pouvoir faire pendant ces masterclass là.
Donc les ateliers et les masterclass sont liés, ça va de pair.
En général, on annonce, on dit soit il y a atelier. En général, par exemple, en début d'année, on fait un atelier brise-glace. Donc, c'est plus pour justement briser la glace. C'est pas très original, mais voilà. Donc, c'est plein de petits jeux, etc., pour que les personnes qui participent puissent se découvrir, etc., parce que c'est important, je trouve, l'ambiance dans une masterclass comme dans un atelier. Et en général, on retrouve quand même les mêmes personnes tout au long de ces mois, parce que c'est de septembre à décembre à peu près qu'on en fait. On retrouve les mêmes personnes qui viennent, et du coup, c'est vrai qu'elles se connaissent. Au fur et à mesure, il y a un climat de confiance qui s'installe. Et pour de la prise de parole en public, c'est super important d'avoir ce climat-là, je trouve.
En fait, la simple différence entre un atelier et une masterclass, ça va être l'intervenant qui vient. Donc, c'est-à-dire, une masterclass, ça va être un professionnel, là où peut-être que nous, on est considérés comme moins professionnels. Et donc, du coup, on va appeler ça un atelier. Voilà. Mais dans tous les cas, c'est un créneau qu'on organise souvent sur une salle du campus, où ça peut être quelque chose de très spécialisé. Donc, on peut toucher que la rhétorique classique, on peut toucher simplement le slam, on peut toucher simplement l'expression scénique. Et voilà, ça va être... Des créneaux qu'on va mettre en place pour tout le monde qui veut en savoir plus sur une composante de la prise de parole en public.
Et pourquoi inviter autant les gens à cet art de la prise de parole? Quel est l'intérêt, en fait? Qu'est-ce qui vous motive, en fait, à enseigner cet art de la rhétorique et etc., enfin de l'éloquence en général? Et je pose peut-être la question à tout le monde. Pourquoi est-ce que c'est si important d'apprendre aujourd'hui la rhétorique?
Comme Léonie l'a dit, Eloquentia est née en Seine-Saint-Denis. Donc l'objectif, je pense, de départ, c'était aussi de se démarquer du côté un peu élitiste que peut être l'éloquence, et de permettre, en fait, à n'importe qui venant d'ailleurs de pouvoir lui aussi mettre des mots sur son histoire, sur son envie, sur ses messages. Et l'idée, en fait, c'est d'amener des jeunes ou même des moins jeunes maintenant à se dire qu'ils ont aussi le pouvoir sur leurs mots, et que les mots peuvent avoir des pouvoirs sur la vie d'autrui. Et c'est permettre, en fait, de faire des connexions entre les gens, c'est permettre de se révéler soi-même. Il y en a plein qui arrivent avec des problématiques liées à l'élocution, la timidité, le bégaiement ou autre chose, et qui viennent, en fait, se tester aux ateliers, aux masterclass ou à cette aventure qu'est le concours, pour dépasser leurs limites et se rencontrer eux-mêmes, en fait, à travers des sujets assez variés, pour pouvoir se questionner, en fait, sur qu'est-ce qu'on a envie de donner, sur qu'est-ce qu'on pense, comment on peut se rapprocher des gens, etc. Donc je pense que c'est comme ça que l'éloquence peut être importante dans nos vies.
Sarah, est-ce que vous voulez revenir?
Moi, c'est pratiquement la même chose que Buntu. Je trouve que l'éloquence, c'est hyper important, en plus, dans la société de nos jours. Savoir parler en public, c'est quelque chose. Ça permet d'exprimer ses idées, ça permet de transmettre un message, ça permet, et aujourd'hui, avec les problématiques en plus sociétales qu'on peut avoir autour de nous, que ce soit en tant qu'étudiant, mais que ce soit n'importe qui, à n'importe quel âge, on a tous des problématiques différentes au fur et à mesure qu'on avance dans nos vies. En fait, c'est hyper important de savoir communiquer avec les gens et de savoir dire ce qu'on pense aux autres, pour qu'ils déjà ils sachent notre point de vue, mais qu'en plus de ça, essayer de pouvoir communiquer, de pouvoir dire là je suis d'accord, là je suis pas d'accord, et ça peut se faire, certes ça peut se faire dans une sphère intime, parce qu'on peut être deux par exemple, mais ça peut très bien se faire devant un amphi, ça peut se faire, regardez, quand il y a les manifestations, les choses comme ça, c'est pour faire valoir ses droits aussi au bout d'un moment, donc c'est hyper important. Moi, je trouve l'éloquence, on a la chance avec Eloquentia de pouvoir promouvoir ça au niveau des étudiants, au niveau des jeunes, mais ça touche, en fait, au final, un public beaucoup, beaucoup plus large, quoi.
Des choses à rajouter, Léonie?
Moi, je suis globalement d'accord avec tout ce qu'on vient de dire. Je sais que moi, j'ai rejoint Eloquentia parce que j'étais très timide, et ça m'a permis de m'ouvrir face à un public, mais j'adore aussi maintenant, quand je vois par exemple à la formation, ou même quand on voit les orateurs discourir, en fait on les voit s'ouvrir, et juste l'authenticité quand ils parlent, leur transmettre cette bienveillance qu'on a dans l'association, je trouve que c'est trop chouette, en fait, de pouvoir vivre des choses comme ça à travers simplement le fait de parler, en fait. Donc du coup, si tout le monde pouvait avoir cette vision-là de ce que c'est parler en public, c'est le message qu'on peut faire passer. Oui, c'est super important. Donc voilà, j'adore voir les jeunes s'ouvrir comme ça, c'est trop chouette.
Et Buntu, vous parliez donc de cette origine des concours Eloquentia en Seine-Saint-Denis, et que ces concours tendaient à se démarquer d'un élitisme. Justement, par rapport à cette question, est-ce que d'une année à l'autre, ou en tout cas au sein même d'une édition, vous constatez des profils assez différents, assez variés, et qu'est-ce que ça apporte en fait ?
Bah c'est bien l'originalité d'Eloquentia, c'est que c'est ouvert à tout le monde, dans le sens où on va voir tous les autres concours d'éloquence, on appelle ça concours d'éloquence, là où nous c'est un concours de prise de parole en public, et donc simplement les gens peuvent venir slammer, rapper, faire de l'éloquence s'ils en ont envie, à travers des plaidoiries, mais c'est vraiment des discours qui peuvent être divers et variés, et du coup, forcément quand on dit aux gens d'être authentiques, et ben ça rapporte bah, tout le monde, puisque ben, chacun a sa... chacun a sa son authenticité propre, donc du coup, en fait, y a personne n'est pareil, je sais pas comment expliquer, mais tout le monde vient de partout, et c'est trop bien, parce que bah, c'est une association qui réunit plein de gens, et on s'en fiche de qui on est, et en fait, tout le monde est là pour la même chose, et pour partager les mêmes souvenirs, voilà, et donc c'est trop chouette.
C'est vrai qu'au-delà de l'aspect technique de l'éloquence, il y a tout l'aspect artistique, il y a tout l'aspect social qui prend une encore plus grande place dans un concours comme Eloquentia, là où dans des concours type un peu plus plaidoirie ou choses comme ça, c'est quelque chose qu'on retrouve moins. Et du coup, bah, les gens, ils en sortent avec une nouvelle compétence qui est de bah, savoir mieux s'exprimer ou avoir une meilleure façon d'exprimer leurs idées. Mais ils ressortent aussi avec... ils ont rencontré des nouvelles personnes, ils se sont peut-être fait des nouveaux amis, ils ont réussi à créer du lien social plus facilement et peut-être en dehors, ils en avaient du mal et du coup ils ont réussi à se désinhiber en faisant des aventures comme ça. Donc oui, avoir des profils totalement différents, issus du milieu du théâtre, issus du milieu du rap, c'est vraiment un mélange de profils différents et t'en ressors encore plus plein de choses.
Et ces profils très différents, ils sont aussi marqués par une différence d'origine. Est-ce qu'il y a des personnes internationales aussi qui viennent ou qui participent, est-ce que vous en trouvez aussi ?
À échelle locale, moins. Après, on est totalement ouvert. Il y a des personnes qui ne parlaient pas hyper bien français et qui sont arrivées ici pour les études et qui se sont dit « Allez, j'ai envie de me lancer dans un concours d'éloquence en français. » Et du coup, c'est trop bien de voir des personnes se dépasser comme ça dans une langue qu'ils ne maîtrisent pas forcément, mais qu'ils ont envie de faire quand même passer un message à travers ça. Donc ça, c'est trop bien. Et moi, j'ai eu l'opportunité avec Léonie de partir l'année dernière au camp Eloquentia et qui se passe avec les antennes internationales. Donc, tu as des personnes qui viennent, comme elle a dit, du Sénégal, de l'Algérie, de Madagascar, d'Haïti. Et c'est juste un plus, en fait, de voir comment bah, l'éloquence francophone se développe aussi dans d'autres pays. Quelles sont les idées, quelles sont les choses utilisées. Et c'est un vrai partage, en fait. Tu ressors juste avec du partage.
Vous, en tant que bénévole, quel rôle est-ce que vous avez au sein de l'association ? Est-ce que vous formez aussi les personnes qui viennent, par exemple, aux formations ? Est-ce que vous organisez du coup le concours ? Comment ça se passe ? Quel est vos rôles ? Quels sont vos rôles au sein de l'association ?
Vas-y.
Ok. T'en prie.
Moi, j'ai un parcours un peu plus particulier parce que je suis entrée dans Eloquentia en tant que je prenais les masterclass et les ateliers, donc je participais à ça. Ensuite, je suis passée candidate au concours et ensuite, je suis devenue formatrice à Eloquentia. Donc, j'ai plusieurs casquettes grâce à Eloquentia et je trouve ça trop bien. J'ai pu un peu tester, voir tous les côtés de l'univers et je trouve ça cool. Et aujourd'hui, je suis dans le pôle partenariat. Donc, mon objectif qui n'a pas été hyper bien réalisé cette année, c'est de pouvoir s'ouvrir, comme je disais, à mon sens, l'important, c'est aussi la pluralité des profils qu'on peut avoir. Et à mon avis, il faudrait aussi trouver un moyen d'accueillir encore plus de personnes que les étudiants présents sur l'UGA et le campus et d'aller commencer à entrer à Grenoble, faire venir aussi des personnes issues de d'autres milieux, en fait. Et il n'y a pas tout le monde qui se trouve à l'université ou qui a l'opportunité de faire des études, mais des artistes, on en trouve ailleurs et aller les chercher, en fait. Donc l'objectif, c'est de découvrir des nouvelles scènes. C'est aussi une expérience que peu de jeunes ont vécu. Monter sur une scène sous des projecteurs et parler pendant 10 minutes pendant que tout le monde t'écoute, je pense que tout le monde n'a pas envie de faire ça, mais c'est une expérience à vivre parce que tu te dépasses et tu découvres de nouvelles choses. Donc avoir d'autres espaces sur lesquels les candidats peuvent discourir et avoir des partenariats avec potentiellement la ville ou la métropole qui puissent aussi nous accompagner à partager en fait ce message et à accueillir plus de jeunes.
Léonie,
la question à la base, c'était...
Le rôle
de bénévole. Mais moi, du coup, je suis rentrée à Eloquentia directement en tant que bénévole. Donc, le rôle de bénévole, c'est globalement de gérer l'association, c'est-à-dire je vais dire des trucs banals, mais trouver des salles, trouver les jurys pour les candidats, enfin pour les tours en public ou à huis clos. C'est organiser des ateliers, c'est trouver des gens qui sont disponibles pour faire des masterclass. Après, la formation, bah, trouver des formateurs, formatrices. Donc voilà, c'est toute cette gestion de maintenir et faire vivre l'association. Moi, j'ai la casquette aussi de formatrice depuis 2 ans à la formation à voix haute, dans le module coaching concours. Donc ça, c'est trop chouette aussi. J'avais déjà fait des concours d'éloquence avant, mais j'ai jamais fait éloquentia, le concours éloquentia. Voilà, donc j'ai commencé en tant que bénévole, maintenant je suis présidente. Et je suis d'accord avec Buntu, l'association est pour l'instant, il est vrai, très centré sur le campus, aussi parce qu'on est des étudiants et qu'on a tout ce que le campus nous permet d'avoir en tant qu'étudiants, c'est-à-dire la gratuité des salles, etc. Mais c'est vrai que l'objectif aujourd'hui, ce serait de s'émanciper dans Grenoble, dans Saint-Martin d'Hères, peu importe, pour effectivement toucher encore plus de monde, et notamment des étudiants, par exemple, qui ne sont pas forcément à l'UGA, qu'on peut même aujourd'hui, on peut toucher des BTS, des MMI, etc. Donc voilà, après, le rôle de bénévole, ça reste bénévole. Donc nous, on est tous étudiants à côté. Donc on a tous aussi notre vie à côté, finalement. Et puis voilà, c'est que du plaisir, en vrai, d'être à Eloquentia. Donc je ne sais pas quoi rajouter de plus.
Et Sarah, peut-être ajouter.
Du coup, moi, ça fait 2 ans que là, je suis dans l'asso, voilà, en tant que bénévole. Du coup, pareil, j'ai pas fait le concours. Je sais que l'éloquence, c'est toujours un truc qui m'a attirée, qui m'a. Enfin, en fait, j'adore voir les autres discourir. Pas forcément moi, mais moi, je trouve qu'ils se tripouillent très bien et les discours sont incroyables. Donc, c'est pour ça que ça m'a donné aussi envie de rentrer dans cet asso. Et je trouve que l'avantage d'Eloquentia, quand je parle un peu avec des copines qui sont dans d'autres associations, etc., c'est que bénévole, en fait, c'est pas vu président en haut et les bénévoles qui font un peu le reste. C'est vraiment du travail d'équipe. C'est vraiment. Enfin, on s'entraide tout le temps. Si quelqu'un ne peut pas faire une tâche, et c'est quelqu'un d'autre qui va pouvoir la faire, alors que ce n'est même pas notre pôle de base. En fait, par exemple, communication. Alors, bon, y a des choses que forcément, par exemple, la com, je ne sais pas faire forcément un visuel, mais par exemple, s'il y a besoin de poster, s'il y a besoin de faire une description sur un post ou des choses comme ça, c'est des choses qu'on va s'entraider, parce que on n'est pas forcément, ne peut pas forcément à certains moments, etc. Donc, c'est vrai que l'ambiance bénévole, je la trouve particulièrement sympathique à Eloquentia, parce que j'ai l'occasion de voir des fois dans certaines autres associations, c'est pas le cas, donc voilà, donc franchement c'est une super expérience d'être à Eloquentia et notamment en tant que bénévole, je recommande en tout cas.
C'était donc les bénévoles de l'association Eloquentia qui organisent le concours Eloquentia à Grenoble. Merci beaucoup à Sarah Muti, secrétaire de l'association Buntu Camara au pôle partenariat, et enfin Léonie Morestin, présidente d'Eloquentia. Merci à vous trois.
Merci à toi.
Et on retrouve les finalistes après une interlude musicale.
Et si t'as déconné, mon épaule c'est pas la bonne. Frérot, je suis désolé, en ce moment c'est pas la forme. À tout vouloir contrôler, je contrôle plus personne. J'ai le cœur qui fait exoner, donc je me retrouve hyper seul. Sans parachute, sans filet, sans sécu, sans gilet, rien prévu, sans regret, j'ai tout vu, rien fait. Tout bu en effet pour tenter d'oublier ce que je sais pas pardonner, ce que la vie m'a fait. Dans tes yeux je peux voir comme un effet miroir, et comme si ton histoire moi je l'écrivais. Drôle de super pouvoir, ton regard en dit long, ça peut décevoir quand ma bouche parle vrai. Oh laisse tomber moi, que mon cœur en témoigne. Je suis dans un drôle d'état, va falloir que je m'éloigne. Va falloir que je m'épargne, va falloir que je désarme. Mon Dieu, répondez-moi. Faudrait que je me pardonne à chaque fois que je déconne. Faudrait que je décroche mon téléphone au cas où c'est le destin qui sonne. La petite voix qui résonne, faut pas que je l'emprisonne. Faudrait que je décroche mon téléphone au cas où c'est le destin qui sonne. Faudrait que je me pardonne.
Thank you. Frérot, je n'étais pas heureux. Donc j'ai décidé de changer de rêve. Parce que les soldats valeureux n'aiment pas trop demander de l'aide. Ici, bah, pas de place pour les peureux. Alors j'ai fermé les deux yeux. Comme ça, j'ai pas vu que c'était dangereux. Quand j'ai foncé la tête baissée vers ces messieurs. Mais ces messieurs me disent de faire un petit mix d'oxo et de tease. Afin que nos espérances de vie se réduisent. Je vais m'isoler jusqu'à ce que mes vivres s'épuisent. Vu que l'enfer c'est les autres, nique sa mère les hommes, hommes, hommes. Oui j'ai commis des fautes, faudrait que je me pardonne, donne, donne. Yeah. Oh laisse tomber moi, que mon cœur en témoigne. J'suis dans un drôle d'état, va falloir que je m'éloigne. Va falloir que je m'épargne, va falloir que je désarme. Mon Dieu répondez-moi.
Faudrait que je me pardonne. À chaque fois que je déconne, faudrait que je décroche mon téléphone au cas où c'est le destin qui sonne. La petite voix qui résonne, faut pas que je l'emprisonne. Faudrait que je décroche mon téléphone au cas où c'est le destin qui sonne. Faudrait que je me pardonne. À chaque fois que je déconne, faudrait que je décroche mon téléphone au cas où c'est le destin qui sonne. La petite voix qui résonne, faut pas que je l'emprisonne.
Et vous êtes toujours sur Campus Grenoble, vous écoutez l'apérophonie sur le concours Eloquentia à Grenoble. On vient d'écouter Hypersensible de Thomas et Dosset, parce que le rap, c'est aussi une forme d'éloquence que l'on pourrait présenter au concours. Et justement, on va maintenant parler du concours lui-même. Et pour ça, je suis avec les quatre finalistes du concours de cette année. Donc Dorian Tourte, Nirilan Rakotoarimino, Laura Pisa et Léa Dagron. Bonjour, enfin bonsoir à vous quatre.
Bonsoir.
Alors, peut-être pour commencer, qu'est-ce qui vous a poussé à participer au concours, chacun d'entre vous ?
Bah, moi, c'est parce que je l'ai fait au lycée et que j'avais beaucoup, beaucoup à m'améliorer dessus. Et puis parce que c'est une période de ma vie qui est assez compliquée. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, il n'y a pas très longtemps, que quand on veut s'en sortir, on n'est pas obligé de se mettre des bâtons dans les roues tout seul. Du coup, je me suis dit, je vais trouver un truc. Et là, je vais tout donner et je vais tout déchirer. Voilà.
Dorian.
Moi, c'est un peu pareil. Je me suis lancé là-dedans parce que ça me permettait d'écrire et d'être vraiment très sincère dans ce que je disais. Et c'était un exercice super pour faire ça, du coup. Et vraiment, en fait, j'ai continué parce que ça me permet vraiment de sortir des trucs sans quoi j'aurais. Enfin, des trucs que j'aurais jamais découvert sinon. Donc.
Moi, c'est parce que ça fait 3 fois que je loupe l'occasion de faire le concours, mais c'est surtout par passion pour la poésie, le fait d'apprendre et de partager des choses à des personnes qui ont hâte de nous écouter.
Moi, je dirais que j'ai toujours aimé écrire, mais j'ai jamais eu cette confiance de parler de mes idées devant des gens, et c'est plus par rapport à cette prise de confiance qui m'a poussée à m'inscrire aujourd'hui, enfin, participer à Eloquentia.
Donc autant de raisons différentes de participer à un concours, c'est super. Et pour l'instant, quel sujet est-ce que vous avez préféré défendre au concours ? Si c'est des années antérieures, c'est aussi, vous pouvez aussi le dire. On veut juste savoir à peu près à quelles questions on peut s'attendre.
Moi, pour les demi-finales, je suis tombée sur « La jeunesse est-elle innocente ?» et j'ai dû défendre à la négative. Au début, quand j'ai eu le sujet, c'était pas évident parce que enfin, lorsque j'entends la question, il n'y a pas forcément de réponse qui me vient. Mais à force d'écrire, on trouve forcément des choses à dire et ça m'a permis d'être là aujourd'hui.
Moi, c'est « Faut-il souffrir pour grandir ?» donc les demi-finales aussi, en lien avec ce que je vis en ce moment et puis parce que du coup, j'ai pu dire des choses dedans pour parler et dire ce que j'avais à dire le plus profondément que je puisse le faire.
Moi, c'était au deuxième tour. C'était la sentence était l'irrévocable à la négative. Et c'était une bonne façon de rendre hommage à ma famille, à mon grand-père.
Et Dorian ?
Moi, c'était un sujet que j'avais eu à Rennes, du coup, et qui était sur le travail. C'était « Bifurquer est-il un privilège de classe ?» Et c'était super, parce que pour moi, c'était un sujet politique, mais sur lequel je pouvais identifier des personnes qui ont vraiment existé et que j'ai côtoyées dans ma vie. Donc j'ai pu construire une histoire autour de ça, et j'en étais très fier. J'étais très content de ça.
En fait, dans tous vos témoignages, ce qui est marrant, c'est que on pourrait ne pas s'y attendre, en tout cas moi je ne m'y attendais pas, c'est que les sujets que vous dites sont très liés à votre expérience personnelle. Dans quelle mesure le discours peut se baser aussi sur des expériences, peut être nourri en fait de vos expériences propres aussi?
Un discours en soi, il a une partie intégrante, comment dire, il faut obligatoirement qu'on parle de nous, parce que ça, un discours, il nous représente. Si on est là devant les gens, ce n'est pas pour jouer un rôle, c'est vraiment pour dire « Ok, je vais vous montrer ce sujet avec mon point de vue et donc mon parcours. »
Bah moi, c'est plus parce que quand c'est personnel et que je l'écris, parce que dans la vie, je suis quelqu'un qui parle très rapidement, qui vit tout à 1000 à l'heure. Et quand je fais un concours d'éloquence, ça me permet de mettre mes idées un peu au clair, de faire le point aussi sur moi-même, donc c'est hyper important. Et quand je le fais, du coup, je le vis avec mes émotions, avec je suis plus posée, et puis voilà, ça me permet de me poser vraiment.
Je trouve que lorsqu'on fait un concours d'éloquence, les gens qui viennent te voir, ils prennent le temps de venir nous écouter. Donc c'est un peu notre rôle de pouvoir partager un bout de qui on est vraiment, pour qu'ils puissent s'accrocher à notre histoire, pour qu'ils puissent suivre qui on est à travers notre discours. Et c'est ça que je trouve fascinant, et c'est pour ça que c'est toujours intéressant à chaque étape du parcours, parce qu'on apprend à se connaître un petit peu plus chacun ici.
Oui, ça fait une sorte d'introspection aussi. Dorian, vous avez des choses à ajouter?
Moi, c'est pareil. C'est vraiment ça, c'est vraiment ça l'idée.
Cette année, le concours commençait le 11 mars, donc ça fait presque 2 mois que vous y êtes. Comment est-ce que vous gérez le stress des concours? J'ai envie de poser la question, parce que c'est quand même une dimension, j'imagine, assez importante dans cette période-là. Comment vous gérez ce stress, cette pression, et comment vous vous organisez pour préparer le discours et être prête ou prêt au moment fatidique?
Bah moi, quand j'ai le sujet, je me suis mis une deadline. C'est que maximum en 2 jours, il faut qu'il soit absolument écrit, terminé. Après, le stress, moi, je le prends plus comme de l'adrénaline que comme du stress. Donc, j'arrive sur scène, je tremble, mes mains, elles tremblent. Mais déjà, il y a des gens qui sont là pour me soutenir, qui viennent me voir, qui me soutiennent même avant, après, pendant. Donc ça pose énormément. Et puis, je me dis, de toute façon, maintenant, j'y suis. Donc, soit tu donnes tout et tu te défonces tout, soit tu t'abandonnes, mais tu peux pas. Donc, je gère le stress comme ça plutôt.
Moi, je le gère pas. genre pas du tout. Pour le sujet des cars, par exemple, j'ai fini mon texte la veille, j'ai pas eu le temps de l'apprendre. J'étais vraiment très stressé pour les demi. Pareil, j'étais très stressé. Et à chaque fois, j'ai la question juste avant de passer, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je fais ce truc, en fait? Mais je fais comme je peux. Une fois que je suis sur la scène, de toute façon, il faut que je me fasse confiance, donc...
Moi, je vais rejoindre Dorian, je ne gère pas. Même avant, je me rappelle, pour les demi, je voulais abandonner, mais à la dernière minute, parce que quand je me suis inscrite, c'était vraiment ce truc d'avoir confiance en moi. Et pour l'instant, je suis encore en pleine construction de cette confiance, et j'apprends à chaque partie du concours.
Eh bien, Dorian et Nirilan, je vous rejoins, je ne gère pas du tout. En fait, je passe par différentes phases, la phase de « oh, ça va le faire, il y a un petit peu de temps », la phase de brainstorming et la phase de « oh, faudrait quand même le faire ». Et puis, en fait, finalement, je suis toujours réanimée par la passion et je me dis « il faut juste apprécier le moment présent, malgré la peur des regards des autres et du fait que parfois, on s'attend à beaucoup de la part de soi-même. »
Et donc, Léa, pardon, vous parliez d'une deadline. Combien de temps vous avez pour préparer le discours?
10 jours.
10 jours, d'accord. Et vous l'avez le jour même de la... Ok, non.
On l'a 10 jours avant de passer le step.
Très bien. Et en fait, à quoi débouche ce concours? Est-ce qu'il y a des concours à échelle nationale, par exemple? Une fois que vous êtes lauréat ou lauréate de ce concours-là, qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Est-ce qu'il y a quelque chose au-dessus?
Bah oui, le gagnant, il va à Paris.
et en quart de finale, je crois, si je dis pas de bêtises. Et donc de la métropole de France, et après c'est au niveau international francophone.
D'accord, très bien. Et souvent, bah, vous y avez partiellement répondu, mais ces concours, c'est un vrai défi pour des personnes qui seraient timides. Et souvent, c'est, en fait, on trouve beaucoup de personnes timides ou qui ne savent pas gérer le stress, justement parce que c'est un challenge pour eux. Est-ce qu'avant ce concours, vous confirmez cette règle? Est-ce qu'avant ce concours, vous étiez aussi des grands timides qui ne voulaient pas, surtout pas parler aux oraux à l'école?
Moi, lever la main en classe, ça me tétanise. Donc, comment vous dire que parler devant tout un amphithéâtre, c'est vraiment un défi, mais je conseille vraiment de le faire. Ça aide, ne serait-ce que pour les idées, pour... je sais pas, il y a une connexion qui se crée entre toi et le public, entre toi et les autres. Et... je suis toujours timide, mais ça m'a un peu aidé le concours à améliorer cette partie-là de moi-même.
Moi, justement, j'ai toujours aimé répéter des pièces de théâtre, etc. Enfin, plutôt des poèmes. Mais là où ça a été dur pour Eloquentia, c'est que justement, il faut parler de soi. Et pour moi, il était là mon défi. Et parler de soi, rédiger, accepter les choses qu'on va partager avec le public. Et voilà.
C'est drôle parce que moi, c'est l'inverse. C'est plus facile pour moi de faire un discours passionné devant 400 personnes que de rencontrer une nouvelle personne et de lui dire ce que je suis, enfin qui je suis en fait. C'est...
Et moi pareil, hein, je suis pas du tout timide, mais alors tout l'inverse. Par contre, je suis très hyperactive et je parle très vite et je dis pas souvent ce que je ressens. Souvent on me dit tout le temps, tu souris tout le temps, tu vas tout le temps bien. La vérité c'est que non, et dans les concours je peux le montrer, me poser, parler doucement. Donc non, la timidité c'est pas du tout mon truc.
Et est-ce que cette expérience du concours, peut-être que vous le verrez de manière plus postérieure, mais pour l'instant, est-ce que vous voyez qu'il vous a poussé à vaincre le stress ou à vaincre une certaine discrétion ou justement une forme d'hyperactivité où on ne peut pas se canaliser? Est-ce que vous arrivez à avoir une vraie évolution, même dans votre vie de tous les jours, enfin même surtout dans votre vie de tous les jours, parce que c'est peut-être ça aussi l'intérêt?
Oui, bah, moi par rapport à l'hyperactivité, oui, clairement, surtout que je me suis vraiment améliorée par rapport à ce que je faisais au lycée, mais ça m'a surtout beaucoup, beaucoup aidée dans ma période aujourd'hui, donc les deux, c'est un défi relevé et je suis fière, mais c'est pas fini.
Parce que vous avez posé vos pensées sur un papier, puis vous les avez exprimées en fait?
Oui, c'est ça, au moins j'ai pu dire ce que j'avais à dire, à qui je voulais le dire aussi, parce que ça c'est important, des fois dans mes textes je parle de moi, je parle pour le public, mais je parle aussi pour des gens en particulier. Donc c'est très important pour moi.
Moi je dirais que ça m'a aidé pour le stress en gestion de crise. C'est toujours, tu te retrouves dans une situation, c'est chaud, il faut gérer, de toute façon il n'y a pas le choix. Et un discours c'est ça, tu arrives sur une scène, les gens attendent quelque chose de toi, tu vois plein de regards et tu fais bon ben, banco.
Moi je dirais quand même que ça aide parce que, en fait, on est sur le fait accompli, t'as accepté de participer, donc t'es là, tu essayes de faire de ton mieux. Donc dans la vie de tous les jours, je pense que ça se relate quand même, ne serait-ce qu'avec les gens, tu oses plus dire, enfin, poser ta position, moi je dis tel, et c'est comme ça, et si t'es pas d'accord avec moi, bah, on peut en discuter, bien évidemment, mais tu oses plus t'affirmer dans tes idées. Moi je trouve que c'est dans cette manière-là que j'ai évolué.
Et je suis tout à fait d'accord avec toi, Nirilane, parce que moi, là où ça a évolué, c'est par rapport à l'hypersensibilité. Ça m'a permis de m'affirmer encore plus et de me dire que ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Au contraire, elle est créatrice, et elle permet justement de construire ses discours.
Et bien justement, j'aimerais bien parler d'éloquence tout à l'heure. Avant ça, j'aimerais bien que vous m'entendiez quelque chose, un petit extrait d'un documentaire. On se retrouve juste après.
Le fait que j'ai développé, je pense, cette appétence pour parler, ça a été un moyen de survie, je pense. J'étais juste très en colère et dans l'incapacité de moi-même savoir ce que je ressentais, et ça me faisait beaucoup de mal. Mais le fait de pouvoir me défouler, sortir des choses que je dirais jamais dans la vraie vie, de pouvoir même slammer, rapper, faire de la poésie, des mises en scène un peu théâtrales, bah, tout ça, ça m'a permis de vraiment aller mieux, en fait.
Et vous êtes toujours sur Radio Campus Grenoble 90.8. On vient d'écouter un extrait donc, du documentaire Le Premier Mot, un documentaire réalisé par le Cercle des Orateurs Disparus. Donc la personne qui parle dans ce documentaire dit que cette appétence pour parler qu'il a permet de se comprendre et de se dévoiler, de se défouler aussi pour aller mieux. C'est quelque chose, on en a un petit peu parlé, mais que vous confirmez en ayant cette expérience à Eloquentia.
Oui, clairement.
Ah oui, il y a une très grande dimension cathartique. C'est plus que se révéler, c'est se laisser aller et juste s'autoriser à être pleinement soi-même, à tout ressentir, tout vivre, et à se dire, ok, à travers un discours, je suis vulnérable, mais si vous êtes là, vous avez envie d'être là, vous avez envie d'être vulnérable avec moi aussi.
Et laisser passer un message aussi, très important.
Par quoi ça passe en fait l'éloquence ? Est-ce que c'est seulement un langage qui est verbal ? Est-ce qu'il y a d'autres dimensions ? Comment vous définiriez l'éloquence ? Par quoi elle se traduit ?
Bah, moi je dirais que l'éloquence c'est beaucoup plus que des mots, ça passe par les gestes. Comment est-ce qu'on fait passer le message, non seulement avec les mots, avec nos gestes, mais aussi à travers les silences, qui veut dire beaucoup de choses en éloquence. Et donc je dirais que c'est pas seulement des mots, c'est surtout des sentiments qu'on arrive à faire passer à travers notre corps, notre gestuelle, à travers notre posture quand on discourt.
Ouais, c'est vraiment le corps, ça permet de faire ressortir toute la sincérité qu'on a mise dans le discours, et ça permet de le vivre. Moi c'est comme ça que je vois l'éloquence, et c'est d'autant plus puissant du coup.
Ça peut être aussi une mélodie. On peut parler de musique aussi dans l'éloquence ? Est-ce que ça a une dimension importante également ? Parce qu'il faut poser sa voix, donc il y a une forme d'intonation aussi qu'il faut avoir.
Absolument.
On peut tout à fait faire un parallèle avec la musique, parce que, il y a cet aspect de rythme, de tempo, le fait d'être toujours bien calé, etc., sur les mots, sur les pas, sur les gestes, sur les expressions faciales.
Est-ce que vous êtes souvent confronté, parce que tout à l'heure Dorian parlait de sincérité dans le discours, mais vous devez souvent être aussi confronté à défendre des affirmations avec lesquelles vous n'êtes pas entièrement d'accord. Comment est-ce que vous... Déjà, est-ce que vous avez des exemples, pour commencer? J'ai posé une colle.
Alors oui, parce que par exemple, en demi-finale, quand j'ai eu mon thème « Faut-il souffrir pour grandir ?», au départ, je me serais dit que oui. Justement parce que quand tu souffres, tu grandis forcément plus vite, t'apprends plus de choses. Et en fait, le challenge, c'est justement de se dire « Bah ok, mais alors, qu'est-ce qui te convaincrait, toi, que l'inverse serait vrai ?» Et après, tu pars et en fait, à la fin, maintenant, tu me poses la question, je te dirais « Ah non, c'est non, il ne faut pas souffrir pour grandir. » Donc, voilà.
D'autres exemples de phrases ?
Moi, justement, c'est mon cas, là, pour la finale. Je vous avoue, je n'ai pas fini mon texte pour l'instant. Et c'est le challenge même de l'éloquence, c'est que des fois, tu n'arrives pas. Et c'est mon cas. Maintenant, en ce moment, j'y arrive pas parce que j'ai un peu de mal avec le sujet. Mais c'est tout le jeu. Mon sujet, c'est la liberté est-elle conditionnelle et je dois la défendre à la négative. Donc, c'est un peu plus compliqué, mais... c'est le jeu aussi de trouver, enfin comme elle a dit, c'est le jeu de pouvoir trouver des arguments pour se dire comment est-ce que moi je pourrais être convaincue de cela.
Est-ce que vous êtes confrontée à des enjeux éthiques en défendant des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, parfois ?
En tout cas, pour ma part, pas vraiment, parce que dans l'élaboration du discours, je n'écris jamais des choses avec lesquelles je suis pas d'accord. C'est pas possible, en fait. Je peux, j'ai essayé des fois, j'écris des phrases, je me dis ça ne marche absolument pas parce que j'y crois pas. Donc de toute façon, ça va se voir, et puis en plus, j'ai pas envie de le faire. Donc sur un sujet où on n'est pas foncièrement d'accord dès le départ, faut surtout trouver une ligne, même si elle est fine, une ligne vers laquelle on dit « Ah, ça, pour le coup, je pourrais l'entendre. »
Ça rejoint un peu le dévoilement de soi qui se joue dans le concours.
Absolument.
Et du coup, dans ce cas-là, en fait, vous y avez partiellement répondu aussi, mais comment vous gérez cette espèce de conflit intérieur ? Vous vous demandez comment vous vous seriez convaincu de cette affirmation ? Donc, Léa y a répondu.
Oui. Ça serait dans quelle mesure je suis d'accord avec cette partie-là, et vraiment creuser un maximum, étendre cette idée-là.
Pour moi, c'est trouver une idée forte, où je me dis, en fait, ça, j'y avais pas pensé, mais si on joue peut-être sur ce mot ou quoi, on peut dire, ça marche plus, le sujet, il marche plus.
Comme en demi-finale.
Exact, mais bon, tu m'as bien éclaté quand même. Okay.
Moi, je dirais comme Dorian. En fait, il faut trouver une ligne où tu te dis que ça, à ce moment-là, je suis d'accord avec ce qui est dit. Parce que si on commence à écrire et que vraiment, c'est à l'opposé de ce qu'on pense, ça va pas marcher. Donc, c'est vraiment trouver l'idée qui nous représente à travers la question qui nous est imposée.
Donc, parfois, vous devez vous imaginer une situation dans laquelle ce serait possible d'affirmer ça.
Mmh. Moi, c'est vraiment ça, comment je procède.
Et du coup, pour vous, aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente, la parole en elle-même ? Pour vous, est-ce que c'est plutôt, ça se passe plutôt du côté de l'arme ? Ou est-ce que, justement, c'est quelque chose qui apaise le débat public ? Peut-être que c'est un peu des deux.
Pour moi, c'est complètement les deux. Déjà, dans la vie de tous les jours, que ce soit sans éloquence ou pas, ou avec, peu importe. Mais déjà, la parole, c'est quelque chose d'important. De pouvoir communiquer, discuter, échanger, dire à quelqu'un « Écoute, là, ça ne m'a pas plu ce que tu as fait » ou au contraire, « C'est bien ce que tu fais ». Je trouve ça important. Alors, dans l'éloquence, c'est les deux, complètement les deux.
Au niveau factuel, c'est une arme. Parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'elle est assez, elle est un peu galvaudée, surtout dans le débat public, en politique en particulier. Mais j'aime pas cette idée, moi. Je préfère voir la parole comme quelque chose de... Encore une fois, j'insiste là-dessus, mais quelque chose de sincère, sur lequel on dit vraiment ce qu'on pense et ce qu'on ressent. Et pour moi, y a pas plus humain, en fait.
Je dirais que la parole, c'est un peu comme un vêtement. C'est notre manière de montrer sa personnalité. C'est une extension, en fait, de notre nous en tant qu'individu.
Depuis que vous pratiquez cette discipline, est-ce que vous avez une aisance que vous n'auriez pas autrement ? Est-ce que l'éloquence, ça vous a donné peut-être un ethos, en fait, une manière d'être aussi ? Plus que... Tout à l'heure, on parlait plutôt d'une confiance, mais même plutôt d'une posture, en fait, au quotidien, que vous n'aurez pas eu autrement.
Oui, moi en particulier, ça m'a permis d'être plus honnête. C'est un peu étonnant, mais du coup, comme je disais ça sur des discours, sur des choses devant plein de personnes, ensuite, je me devais d'être sincère avec tout le monde. Et du coup, ça m'a aidé là-dessus, et j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup cet apport.
Et moi, c'est plus le côté, quand j'écris un texte, il faut que je le réfléchisse. Et donc, dans la vie de tous les jours, maintenant, je me dis, quand on te pose une question, quand tu fais quelque chose, quand tu vas faire un acte ou quelque chose, réfléchis à ce que tu vas faire, à comment tu vas le faire, à comment tu vas le dire. Comme pour l'éloquence, en fait, même chose.
Être plus posé et réfléchir à chaque chose. Est-ce que vous avez des choses à rajouter, que ce soit Nirvan?
Moi, je dirais que l'éloquence, ça aide vraiment à ancrer ta posture. Et comme ça a été déjà dit, à mieux réfléchir à la question, se poser. C'est vraiment une espèce de... pouvoir conscientiser les choses pour que ce soit en accord avec ce qu'on est et avec nos valeurs.
Et sans nous dévoiler vos secrets de finaliste, comment est-ce qu'on construit un discours pour un concours des langues ? Peut-être avant poser une première question, est-ce que c'est nécessaire de connaître un peu l'histoire et l'héritage de cette éloquence-là en partant des orateurs romains, par exemple. Est-ce que pour vous, c'est une condition nécessaire d'étudier des discours avant pour pouvoir en produire vous-même ?
Alors moi, oui, parce que moi, j'ai une vision de l'éloquence qui est assez différente, on va dire, un petit peu de ce qui a été dit tout à l'heure. Pour moi, l'éloquence, c'est l'art de la parole. Donc par exemple, faire du théâtre dans de l'éloquence ou du rap dans de l'éloquence ou du slam, pour moi, c'est plus de l'éloquence. Ça sort de ça, ça reste de l'art, mais c'est pas de l'éloquence. L'éloquence, à l'époque, c'était vraiment j'ai quelque chose à dire, je vais le dire avec des arguments pour convaincre, pour qu'on m'écoute. Et ça reste aujourd'hui la même chose, mais pour moi, oui, ça a quand même un peu une importance.
C'est compliqué comme question. je pense que c'est bien d'encourager ça. Mais je ne vais pas dire qu'il faut absolument le faire, parce que moi, je ne l'ai pas fait. Je pense qu'il faut peut-être dépasser l'approche un peu classique où on va étudier le grand discours et dire « Ah oui, ça c'est bien, dans vos discours, mettez ça, tout ça. » Il faut le faire, mais en essayant de dépasser le cadre et de toujours dire « Mais qu'est-ce que moi je veux faire ?» et peut-être s'inspirer de ces choses-là pour faire ce qu'on veut faire nous.
Oui, je rejoins Dorian, c'est que c'est pas forcément nécessaire, mais toujours important de savoir aussi d'où vient l'éloquence et comment est-ce qu'une personne a réussi à convaincre et persuader tout un groupe. Voilà.
Et du coup, je reviens à ma question initiale, comment est-ce qu'on construit un discours pour un concours d'éloquence? Quelles sont les étapes à suivre? J'imagine que c'est pour tout le monde assez différent, puis selon la forme qu'on adopte aussi. Mais est-ce qu'il y a un peu un schéma type quand même?
Alors moi, c'est pour ça aussi que j'ai pas fait la formation Eloquentia. C'est parce que moi, j'ai une manière d'écrire mon sujet qui est complètement différente de ce qui est attendu généralement dans de l'éloquence. Moi, j'arrive, je pose la question, je la pose aux gens. En gros, mon sujet, c'est ça, mais maintenant, je vous pose la question à vous, qu'est-ce que vous en pensez? Et après, j'amène mes arguments, et toujours, je ramène des questions dans mon discours pour que les gens qui sont en face de moi se posent la question. Alors que normalement, dans un discours, ce qui serait typiquement entendu, j'aime pas trop dire ça, mais on va dire, guillemets, ça serait de donner des arguments pour convaincre. Moi, je veux convaincre, mais parce que les gens se posent la question de pourquoi et qu'est-ce qu'eux, ils pensent.
Alors, nous, on a fait la formation Eloquentia, donc on va essayer de répéter ce qu'on a appris. Dans les grandes lignes, de ce que je me rappelle, corrige-moi si c'est pas vrai, on commence par l'exorde, c'est-à-dire on parle de nous-mêmes, on essaye de faire comprendre au public qui on est, c'est-à-dire on commence par une histoire un petit peu plus personnelle. Ensuite, il y a la narration, où on peut raconter une histoire toujours en défendant la question principale qui a été posée. Ensuite,
l'argumentation,
où du coup on développe les idées. Ensuite, il y a la réfutation, où on se met à la place
de l'adversaire.
Voilà. Et à la fin, c'est la conclusion, où on rassemble un petit peu les idées. Dans les grandes lignes, c'est ça. Après, bien sûr, chacun met sa patte et c'est jamais pareil. Pareil, moi et Laura, on a fait la même formation et on n'a pas la même façon d'écrire, on n'a pas la même plume.
Du tout.
Et maintenant qu'on a la théorie, ce serait super de voir la pratique. Et pour ça, est-ce que vous pourriez nous faire écouter votre discours, certaines d'entre vous qui l'auraient sur eux ou elles, une petite démonstration d'un des discours que vous avez fait au cours du concours?
Oui.
Ouais,
tu peux bien placer, super. Donc c'est un discours que j'ai fait pour les demi-finales, pour La jeunesse est-elle innocente à la positive. Je peux vous lire un petit extrait. Et ce sont par les mots que je guéris mes maux. Ce soir, je ne suis peut-être pas l'unique enfant à qui on a dérobé l'enchantement. Mais souvenez-vous, rien n'est perdu. Comme le petit prince nous le disait, l'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Même dans le corps d'un adulte, il y a toujours cet enfant qui restera cette part d'innocence. Ce cœur qui voit, ce cœur qui bat, elle est la douceur. Elle se réveille quand la nostalgie est complice, elle est souvent le moteur des artistes.
Super, merci beaucoup. Est-ce que Léa, tu voulais enchaîner?
Pareil, je vais prendre le sujet des demi-finales, puisque des finales, je veux le garder jusqu'à la fin. Il y a un passage dans les demi-finales qui était... Donc mon thème, c'était « Faut-il souffrir pour grandir ?» Et il y a un moment, je disais « C'est comme si quelqu'un, en voulant s'en sortir, se mettait à freiner, se mettant tout seul des bâtons dans les roues. Non mais parce que, tout doux, il faut bien souffrir pour grandir, non ? C'est comme si quelqu'un, par peur, se mettait à mentir. » Et ce mensonge devient une charge qui vient l'envahir, alors que la vérité simple peut tout éclaircir et le faire grandir, évoluer, avancer, sans faiblir.
Ça, je me rappelle bien, ça.
Merci, Léa. Est-ce que Nirilan a son texte ou Dorian?
Dorian, vas-y. J'ai un passage, je ne sais pas si c'est pertinent.
Mais... Eh bien, allez-y.
C'est pas vrai que replonger dans la douleur de ses erreurs nous aide pour avancer. Croyez-moi, j'ai essayé et ça n'a fait qu'empirer. Lorsqu'on touche un peu trop à une plaie en pensant la soigner, on ne fait que la rouvrir et on peine encore plus à la refermer. J'ai aussi tenté de soigner le mal par le mal. J'ai tenté d'accepter que l'échec me façonne, qu'il rentre dans ma tête et s'attelle à me défigurer pour sortir de ce labyrinthe qui m'éreinte. J'ai un temps accepté de devenir ce que l'échec me dictait de devenir. J'ai accepté que l'échec m'apporte ses pensées les plus sombres, dans la promesse de faire éclore un nouveau moi, meilleur et apaisé. Un moi fruit de mes échecs passés, mais prêt à affronter ceux de l'avenir.
Merci Dorian. Myriane.
J'ai un texte que j'ai fait pour la formation. Alors, regardez-vous un instant, puis souvenez-vous de l'enfant que vous étiez. Était-il le même que vous aujourd'hui ? Avait-il les mêmes peurs, les mêmes rêves, les mêmes certitudes ? Non. Alors pourquoi croire que demain, figés dans une illusion de stabilité, nous serions identiques à ce que nous sommes aujourd'hui ? Nous ne sommes pas des statues, nous sommes des rivières. Une rivière semble toujours la même, pourtant, jamais la même eau ne la traverse deux fois. De la même manière, chaque expérience, chaque rencontre, chaque échec, chaque victoire dépose en nous une trace invisible mais irréversible.
Merci beaucoup. Quel était le sujet de ce texte ?
Serons-nous les mêmes demain ?
Serons-nous les mêmes demain ? Et Dorian, je ne crois pas qu'on ait précisé.
C'était sommes-nous le fruit de nos échecs ?
Sommes-nous le fruit de nos échecs ? Eh bien, merci beaucoup pour vos discours. C'était magnifique. C'était l'apérophonie, donc en compagnie de l'association Eloquentia et de ses participants et participantes au concours d'éloquence. La finale du concours se tiendra donc le 6 mai, je rappelle, mercredi de 18h à 20h, ce mercredi, à l'Amphi 1 de la Galerie des Amphis sur le campus de Saint-Martin-d'Hères. Si vous n'avez pas encore pris vos places, c'est pas trop tard et c'est gratuit. C'est sur la biographie, dans la biographie Instagram de compte eloquentia.grenoble sur Instagram. Et donc, merci beaucoup à Dorian Tourte, Nirilan Rakotorarimino, excusez-moi.
C'est ça.
Laura Pisa et Léa Dagron, les quatre finalistes du concours de cette année. Merci beaucoup.
Merci
encore aux bénévoles qui sont venus parler au micro tout à l'heure. Et merci beaucoup à Zoé pour la technique. Restez à l'écoute. Très bonne soirée sur Radio Campus Grenoble 90.8.
Et c'était quoi ? L'apérophonie ! Ouais, mais c'était quoi ? L'apérophonie ! C'est quoi ?
L'apérophonie !
Quoi ?
Sur Campus Grenoble !
Sur quoi ?
Sur le 90.8.
Ah, sur Campus Grenoble 90.8.
Oui.